J'espère que vous allez bien. Alors le passage se trouve dans... Vous avez vu une Bible ou pas? Non? Oui? Ah, ils sont tous sur leur smartphone.
Vous ouvrez la Bible sur le smartphone, hein?
Alors je vous invite à prendre le passage d'aujourd'hui qui est très court. Dans Jean 17, versets 20 à 23, c'est juste 4 petits versets. Alors je vous laisse le temps de le chercher. Jean 17, 20... À 23. Est-ce que vous y êtes toutes et tous? Ok, Jean 17, 20. C'est Jésus qui parle. Je n'ai pris pas pour eux seulement, faisant référence à ses disciples, ses 12 disciples, enfin ses 11 disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Si vous restez qu'un dernier moment dans votre vie qui soit paisible et confidentiel avec les gens que vous aimez, que vous appréciez, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là avec qui vous reste un dernier instant de paisibilité? On est d'accord qu'on leur dirait ce qu'on a sur le cœur. On ne va pas dire des choses superficielles, comme quoi ben, tu cuisines bien, comme quoi... Non, vous leur diriez les choses vraiment que vous avez sur le cœur. Et c'est exactement ce que fait Jésus ici, dans Jean, chapitre 13 à chapitre 17. Ce n'est pas des conversations superficielles, mais c'est des enseignements qu'il leur prodigue, des enseignements éternels. Et donc, là, dans Jean 17, ça relate des propos, les derniers propos de Jésus avant son arrestation. Dans Jean 18, il se fait arrêter. Et donc, dans Jean 17, il le fait ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Donc, ses derniers propos qu'il fait avant son arrestation, c'est une prière qu'il fait envers son Père. Et en fait, la prière, c'est l'outil le plus intime qui démontre vraiment une union entre le Père et une unité avec Dieu. Et donc, Jésus, il s'adresse sur plusieurs points à son Père, sur divers points, et prie notamment pour ses disciples directs, ses 11 disciples, et il intercède directement pour vous et pour moi, dans les quelques versets que je viens de vous lire. Il prie pour toutes les personnes qui allait devenir chrétien après le fait que ses disciples soient envoyés et professent l'évangile. Au verset 20, je relis, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux, celles et ceux, qui croiront en moi à travers leur parole, la parole d'évangélisation des apôtres. Et dans ce verset-là, on lit, dans ce passage, on lit ce que Jésus désire le plus pour ses disciples. Ses disciples du 21e siècle. Sinon, il n'aurait jamais fait cette prière, sa dernière prière envers Dieu. C'est vraiment ce qu'il désire le plus ardemment pour ses disciples. Verset 21. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc son plus grand souhait, et ça répond au thème, donc je ne fais pas de mystère, vous avez la réponse. Son plus grand souhait, c'est que nous soyons complètement, totalement unis, comme Jésus l'était avec son Père. Alors on va voir en quoi ça consiste, c'était juste mon intro. Hein. Je vais diviser mon sermon en trois parties. Alors qu'est-ce que l'unité? Comment l'atteindre, l'unité? et d'où vient cette unité. Et ma première partie, qu'est-ce que l'unité, ça va prendre la grande majeure partie de mon sermon, parce que bon, j'imagine que vous avez grandi dans l'église et voilà quoi. On nous dit, faut être unis en tant que chrétien, chrétienne, donc ça va de soi. Mais c'est quoi exactement l'unité? Est-ce qu'on vous a expliqué c'est quoi? Comment montrer cette unité? Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que tous soient un. Qu'est-ce que ça veut dire, que tous soient un? Jésus, il ne parle pas ici que l'Église catholique soit avec l'Église protestante et l'Église orthodoxe, ou que l'Église presbytérienne soit avec l'Église charismatique ou l'Église baptiste, etc. Enfin, bien sûr, il a ça en tête, mais ce n'est pas vraiment ça qu'il parle. Jésus, il ne parle pas juste de... il ne parle pas juste des chrétiens français, chinois, américains. Il ne parle pas juste des chrétiens hommes et femmes. Il ne parle pas juste de riches et de pauvres. Il ne parle pas juste d'unité entre églises AESM. Bien sûr qu'il fait référence, mais pas que ça. Pas que des chrétiens gilets jaunes, pas de chrétiens pas gilets jaunes, etc. Que tous, absolument tous, soient un. C'est quoi tous? Alors, j'ai donné un petit cours d'histoire rapidement. Très bref, vous êtes jeunes, mais c'est important de savoir ce que c'est que l'histoire. L'église primitive, c'est-à-dire les premiers chrétiens, lorsqu'ils se sont réunis, on appelle ça l'église primitive. L'église primitive, à l'époque, c'était une toute petite communauté. Et au fur et à mesure du siècle, ils ont grandi, jusqu'à qu'aujourd'hui, on soit soi-disant 1 milliard de chrétiens dans le monde. Et l'église primitive a émergé pour différentes raisons. Et l'une d'entre elles, vous savez, c'est laquelle? Pourquoi elle a grandi? C'est parce qu'elle était reconnue par sa communauté, qui était reconnue comme une communauté d'amour. Et quand je parle de communauté d'amour, cela sous-entend bien sûr une unité entre les frères et sœurs de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, le monde gréco-romain dans lequel vivait au 1er siècle, le monde gréco-romain, sous l'Empire Rome, était ébahi que l'Église primitive soit multiculturelle et multiethnique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. À l'époque, les religions se distinguaient par leurs ethnies. Chaque ethnie avait sa propre religion. Et donc, lorsque les disciples de Jésus se sont éparpillés autour du bassin méditerranéen, et que les gens ont commencé à se convertir à l'évangile, à venir au christianisme, cela a amené différents groupes ethniques sous la coupole de Christ et de Dieu. Okay? Et donc, c'était absolument, je pèse mes mots, c'était révolutionnaire à l'époque. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et aujourd'hui, bien sûr, on est dans un contexte totalement différent au XXIe siècle, marqué par le mondialisme, qui prône justement la pluralité des cultures, etc. etc. Cela étant dit, on vit aujourd'hui dans une Europe où il y a des partis nationalistes et extrémistes qui progressent politiquement. C'est le fait, c'est un fait. Et donc, cette particularité multiethnique et multiculturelle de l'Église primitive, qui était reconnue pour ça, je pense devrait aujourd'hui frapper nos concitoyens qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsqu'ils voient une église chrétienne, ils devraient être frappés par sa diversité culturelle. Alors moi, j'ai grandi dans une église chinoise, celle de Chang, si vous la connaissez. Et quand j'étais plus jeune, ça m'a toujours posé problème de faire partie d'une église chinoise, parce que je ne voulais pas paraître communautariste. envers le monde extérieur. Parce que pour moi, la Bible, les Écritures sont claires sur la diversité justement culturelle et ethnique d'une église. Puis avec le temps, j'ai grandi, j'ai mûri dans ma tête, et je me suis dit que sans une église chinoise, ma mère, elle serait jamais allée à l'église. Et si ma mère, elle serait jamais allée à l'église, elle m'aurait jamais amené à l'église. Et si je serais jamais amené à l'église, j'aurais jamais reçu les enseignements à l'école du dimanche. Et peut-être que j'aurais jamais connu le Seigneur. Peut-être, je sais pas. Et du coup, ma vision des choses sur les églises ethniques ont changé. Et donc, je serai toujours reconnaissant pour justement les églises ethniques, quelles qu'elles soient. De l'autre côté, comment réconcilier ça avec justement cette particularité qu'avait l'église primitive de l'époque, cette multiculturalité, pardon. Comment est-ce qu'une église évangélique chinoise peut-elle se différencier d'une autre communauté chinoise lambda? Comment on peut faire ça? Je vous donnerai quelques éléments de réponse après. Que tous, absolument tous, soient un. Est-ce que vous connaissez Martin Lloyd-Jones? Non, vous ne connaissez pas Martin Lloyd-Jones. C'est un célèbre pasteur britannique du XXe siècle. Et en fait, il était docteur. À la base, il allait à l'école pour faire une école de médecine et faisait donc partie de l'élite anglaise. Il était même devenu l'assistant du docteur de la famille royale. Donc, il avait contact avec la famille royale anglaise. Et un jour, il s'est converti. Et il a été appelé par Dieu à servir dans une congrégation dans la ville d'Aberavon. Ça, ouais, ça vous dit absolument rien, parce que c'est une toute petite ville au Pays de Galles. Et lorsqu'il faisait ses visites pastorales, il était absolument choqué par la condition de ses paroissiens qui étaient pauvres et absolument illettrés. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que toute son éducation médicale l'a formé à mépriser justement les gens qui étaient d'en bas. Et plus tard, il a confessé le fait qu'être confronté à ces pêcheurs, enfin des pêcheurs dans le sens où ils allaient à la pêche, parce que c'était une ville portuaire, pardon. Le fait qu'ils soient confrontés à ces pêcheurs et à ces marins lui ont pris l'humilité. Pas parce qu'ils étaient plus pauvres, enfin bien sûr, mais parce qu'ils étaient confrontés à un autre monde, à des personnes qui étaient absolument différentes de qui il était, mais qui avait le même amour pour le Seigneur et pour l'Église. Et jamais, jamais ce pasteur, qui est très connu, qui est très connu en Angleterre, jamais ce pasteur n'aurait pu s'identifier avec ces gens modestes si l'Évangile ne l'avait pas transformé. S'il n'y a pas eu de changement de cœur qui s'est opéré par la grâce de Dieu. Et ce changement justement de cœur qui a été opéré dans son cœur a pu unifier justement quelqu'un qui fait partie de l'élite anglaise à des gens très modestes. Que tous soient un. En 2008, je suis parti aux États-Unis, à Chicago, faire mes études de théologie. Et je suis allé à l'Institut biblique de Moody. C'est une école ultra conservatrice et très, très, comment dire, très traditionnelle, on va dire. Et moi, je suis théologiquement, on va dire, conservateur biblique, on va dire. Mais quand je suis débarqué aux États-Unis, c'était en 2008. C'était pendant les élections présidentielles. En 2008, je ne sais pas, vous avez quel âge? J'étais jeune. Vous aviez quel âge? Vous aviez quoi? 6 ans, 7 ans, 8 ans? 13 ans, pardon, excusez-moi. Vous étiez des ados. Et en fait, c'était l'élection présidentielle entre John McCain et Barack Obama. Qui connaît Barack Obama? Personne? Ah, Parce qu'à l'époque, sachez que Barack Obama, c'était... Comment vous expliquer ? C'était un phénomène. C'était la grande star politique. Et en fait, donc, John McCain, c'était républicain, et Barack Obama, le démocrate. Et moi, je ne comprenais absolument pas pourquoi mes camarades de classe avaient cette antipathie envers Barack Obama. Parce qu'il faut admettre, les chrétiens évangéliques européens votent plutôt à gauche. Alors que les Américains évangéliques votent plutôt à droite. Et pareil, en 2016, c'était il y a 3 ans, j'étais encore aux États-Unis à l'époque des élections présidentielles. Et donc, c'était Donald Trump qui fut élu. Et moi, j'avais rencontré un frère à l'époque qui m'avait dit qu'il avait voté pour M. Trump. Et moi, à l'époque, toujours aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ait pu voter pour cet homme. Ça n'a aucune logique avec les valeurs de l'Évangile. Mais, et c'est un frère que j'appréciais, que j'aimais. Mais au bout du compte, ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il y a un lien qui est beaucoup plus fort, qui nous unit entre chrétiens, entre frères et sœurs, que toute conviction politique, que toute différence sociale, ethnique, socioculturelle, ou même des genres. Mais avec cette base et cette unité chrétienne, toutes ces différences, par contre, doivent nous aider à pouvoir communiquer, échanger, apprendre, écouter des uns et des autres. Et c'est ce qui nous fera grandir dans la grâce, dans la générosité, dans l'humilité, dans la patience envers chacun et chacune. De toute façon, on est tous différents, quelles que soient les différences. Même dans notre personnalité, on est tous différents entre frères et sœurs. Il y a un autre pasteur connu aux États-Unis qui s'appelle Tim Keller, qui raconte cette anecdote. Un jour, il raconte à son assemblée qu'il rencontre un Bosnien, comme ça, dans la rue, qui n'est pas chrétien. Et ce Bosnien, est surpris de voir autant d'animosité entre les républicains et les démocrates. Et il avouera plus tard qu'il est démocrate, ce Bosnien non-chrétien. Mais il dit au pasteur Keller, au pasteur Tim, que si ce Bosnien devait rencontrer un Bosnien républicain, il lui avoue que la politique lui serait insignifiante dans leur relation. Et Keller lui demande, mais pourquoi ? Et la personne lui répond tout simplement qu'entre Bosniens, ils ont expérimenté la vie et la mort ensemble, en faisant référence aux guerres dans les Balkans. Laissez-moi vous lire un verset dans Éphésiens 2, 5. Écoutez. Nous, qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Si vous êtes chrétien, chrétienne, si vous êtes un disciple convaincu de Christ, vous savez d'où vous venez. Vous êtes intimement convaincu par votre nature pécheresse. Mais de l'autre côté, vous savez que vous êtes infiniment aimé et infiniment pardonné de tous vos péchés, par la vie, par la mort et par la résurrection de Jésus. Et la vie et la mort, on l'a tous expérimenté en tant que chrétien et chrétienne. On l'a tous expérimenté. Un chrétien, il sait où il va, il sait où il en est et il sait où il se dirige. Donc, une fois de plus, peu importe votre groupe ethnique, votre classe socioculturelle, peu importe votre genre, votre situation économique, peu importe nos convictions politiques, sachant que mon frère ou ma sœur a expérimenté la même chose que moi, c'est-à-dire la mort en Christ, mais aussi la vie en Christ, je devrais mettre mon identité chrétienne avant toute chose. Et en vertu de ça, ça m'unit à mon frère et à ma sœur. Et tout ce qui était important pour vous avant, ça devient secondaire. Quand on prend conscience de la portée spirituelle et symbolique de la mort de Jésus à la croix, mais aussi surtout de sa résurrection. Parce que c'est par sa résurrection qu'il nous donne la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que la vie de Jésus réunit des gens de tous bords et de tous horizons, parce qu'on est tous différents. On sera tous différents, même si on peut se ressembler sur plusieurs aspects. Mais en vertu de notre foi, de notre confiance en Jésus, à cause de ça, à cause de notre foi, on est automatiquement unis, quoi qu'il arrive. C'est automatique. C'est comme ça. C'est la Bible qui le dit. Et donc, je n'ai pas à vous dire, ben, soyez unis, parce qu'on l'est déjà. On est spirituellement unis en Christ. Que tous soient un. Que tous soient un. On a vu ce que ça veut dire que d'être tous, c'est-à-dire quoi d'être un maintenant. Être un pour moi, un. Il y a différentes manières d'être unis. Mais moi j'ai envie d'être concret avec vous ce matin. Pour moi, être un, c'est le partage. C'est le partage. Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Et la liste que je vais vous donner, elle n'est pas exhaustive, mais ça vous donne une idée de ce que ça veut être, ou ce que ça veut dire que le partage, que d'être uni. Être uni, c'est le partage des biens. C'est être ensemble de la générosité. Dans acte 2, écoutez ce qui se passe justement au début de l'Église primitive. Acte 2, 44, je vais vous lire. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Dans acte 4, un peu plus tard, on y lit. La foule de ceux qui avaient cru, les croyants, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Et l'application concrète de leur nouveau statut en tant que chrétien et chrétienne, en tant que disciple Christ, se traduisait de manière radicale. L'Église primitive était ensemble. N'avait qu'un cœur, n'avait qu'une âme. Elle partageait ses biens et avait tout en commun. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, la propriété privée n'existait pas, mais ils ont décidé de donner ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. L'unité, c'est le partage des biens, mais c'est aussi le partage des problèmes. Dans Galates 6.2. Paul écrit à l'église de Galate, il dit, porter les fardeaux les uns des autres. Ouais. Allez, 95% de vous êtes asiates. On vient d'une culture qui met en avant la réserve, la pudeur, la discrétion. Et lorsqu'on rencontre des problèmes, on n'en parle pas. Du moins, mes parents, ils n'en parlent pas. Ma famille, ils n'en parlent pas. Je suis sûr que c'est le cas avec vos parents. On n'en parle pas. Lorsqu'on a des problèmes, on n'en parle pas. On doit prendre sur soi. On évite à tout prix de demander de l'aide aux autres. On s'en sort tout seul. C'est ça la culture de mes parents. Et la nature humaine fait qu'on est orgueilleux. On doit se débrouiller pour s'en sortir seul. Parce que la fierté prend le pas lorsque on laisse notre nature nous guider. Mais si on laisse l'esprit nous guider, on est amené à admettre nos besoins, nos faiblesses. Et si on est amené à admettre nos besoins et nos faiblesses, eh bien on fait appel aux autres. C'est important de partager ses biens matériels, de demander, mais c'est aussi bien de partager ses fardeaux avec ses frères et ses sœurs. Parce qu'on nous donne ce qu'on n'a pas. L'unité, c'est le partage des biens, des problèmes, mais c'est aussi le partage de la vérité. Je vais vous lire Éphésiens 4. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui a la tête, Christ. Parce qu'à la croix, Jésus a démontré que les deux étaient possibles. C'est-à-dire que l'évangile met en lumière la vérité sur notre personne, c'est-à-dire sur notre faiblesse, sur notre péché et nos besoins. Et de l'autre côté, elle offre un amour qui est inconditionnel. Vous savez, c'est très facile de critiquer une personne. Mais d'accord ? C'est très facile. C'est-à-dire de pointer les choses qui ne vont pas chez une personne gratuitement, juste parce que voilà, j'ai envie de la critiquer. Et derrière, il n'y a pas d'intérêt. On critique, tout simplement. Par contre, confronter un frère ou une sœur demande énormément de courage. Parce que c'est pointer les choses qui ne vont pas chez la personne, mais c'est le faire avec amour, mais dans son intérêt, pour sa sanctification. C'est pas gratuit. Et ça requiert du courage dans le sens où, si on dit la vérité à un frère ou une sœur, elle peut être froissée. Et ça peut détériorer une relation. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir s'entourer de personnes qui nous habilitent d'être assez courageux pour leur dire la vérité quand ça ne va pas. Et bien sûr, toujours avec amour. Et c'est parce que c'est ce genre d'amour qui transforme une personne. L'unité, c'est le partage des biens, des problèmes, de la vérité, mais c'est aussi le partage des échecs. Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent. 1 Corinthiens 12. Qui n'a jamais expérimenté d'échec ? Est-ce que vous avez toujours eu 20 sur 20 dans vos examens? Est-ce que vous avez toujours eu le travail pour lequel vous avez postulé? Est-ce que vous avez tous eu votre permis du premier coup? Est-ce que vous avez toujours tenu promesse envers vos amis? On a tous échoué. On a toujours échoué dans un domaine de notre vie. Et notre société, elle nous pousse à la performance. Et si on n'assure pas, que ce soit au travail ou dans les relations, ben on se débarrasse de nous. On nous met de côté. Mais l'Église doit être différente. Et dans la Bible, on a deux exemples d'échecs monumentaux des deux plus grands leaders de l'Église, Pierre et Paul. Je vous rappelle que Paul, si vous ne connaissez pas trop ce personnage, Paul assassinait les chrétiens. Il persécutait l'Église jusqu'à ce que Jésus se révèle. Et ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place des autres chrétiens. À l'époque, Paul était donc il assassinait les chrétiens, et du jour au lendemain, il se convertit. Il devient chrétien lui-même. Et donc, la communauté chrétienne de l'époque voit subitement Paul devenir leader de l'Église, alors qu'ils avaient certainement perdu un de leurs frères et de leurs sœurs à cause de Paul. Comment, à votre avis, ils devaient ressentir ça? Et malgré tout, ils l'ont accueilli. Et c'est ce qui a fait la force de l'Église primitive à l'époque. Pierre, il est mondialement reconnu pour son rejet 3 fois de Jésus. Lorsque Jésus était le plus vulnérable. Et donc Pierre, c'est un vrai lâche. C'est pas un vrai ami, c'est un faux ami. Voilà quoi, c'est un lâche. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus a l'audace de dire à Pierre, c'est avec toi que je vais bâtir mon Église. C'est fou, non? Pierre a échoué monumentalement lorsque Jésus en avait le plus besoin. Et pourtant, Jésus le réhabilite pour être le leader de l'Église. En tant qu'Église, on se doit d'inclure les échecs dans notre communauté. On se doit de le faire. Pourquoi ? Ben pour y voir la rédemption. On inclut, on pense les plaies, on se réconcilie. Que tous soient un. C'est le partage des biens, des problèmes, de la vérité et des échecs. Alors pourquoi l'unité est-elle si importante ? En quoi c'est important d'être unis ? Jésus nous donne un élément de réponse dans sa prière au verset 17-21. Il leur dit « Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Tout simplement. Et donc, cette affirmation met une responsabilité incroyable sur nos épaules, en tant que chrétien et chrétienne. Parce que, pourquoi ? Le christianisme fait des affirmations qui sont totalement folles pour le monde. Ça dit quoi, le christianisme ? La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ok ? La Bible dit que Jésus est né d'une vierge. Ok ? La Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. J'ai envie de dire encore ok. Et la Bible dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Vous dites ça à vos amis qui n'ont aucun arrière-plan chrétien ou religieux, ils nous prennent pour des fous. Parce que c'est des affirmations qui sont totalement folles. C'est fou de pouvoir croire à ces choses-là. Et le monde ne va pas croire en ces affirmations à moins d'une chose. À moins que nous, en tant qu'Église, on puisse démontrer qu'on est une communauté qui est remplie d'amour, de grâce, de générosité, et qui soit surtout unie. Évidemment, en tant que chrétien, on doit bien sûr avoir des arguments qui soient valables, logiques, raisonnés, pour défendre notre foi. Mais personne ne nous écoutera si notre style de vie ne suit pas les enseignements dans lesquels on croit. Et donc, l'honneur et la renommée de Jésus sont intimement liés à la manière dont on vit notre vie. Ce que nous, on fait, impacte l'image de Christ. Et Gandhi, un célèbre indien qui a promu l'indépendance de l'Inde à l'époque, a déclaré « Si ce n'était pas à cause des chrétiens, je serais chrétien. » D'une certaine manière, Jésus donne le droit au monde de le rejeter si nous, nous n'obéissons pas à son commandement, à ses commandements, si on est hypocrite vis-à-vis de ses enseignements. Lorsqu'on est orgueilleux, désuni, méchant, avec de mauvaises intentions, on rend Jésus terriblement laid. Il faut prendre conscience de ça. Mais avec une communauté unie et aimante, ça change beaucoup de choses. Et c'est aussi possible de vivre cette prière que Jésus prie. C'est possible. Je sais que c'est compliqué de le faire, d'être unis, de s'aimer les uns les autres, mais c'est possible, sinon Jésus n'aurait jamais prié cette prière. Alors, comment atteindre cette unité? Donc, si on pose cette question, c'est que c'est pas facile. Ouais. On est d'accord? Comme Tatiana l'a dit tout à l'heure, les êtres humains, les hommes et les femmes, ils aiment se comparer les uns les autres. Que ce soit sur les physiques, sur les finances, que ce soit sur tout. Parce qu'au plus profond de notre cœur, si on se compare, c'est pourquoi? Ben, c'est pour se rendre plus grand, plus beau, mais c'est aussi pour s'auto-justifier. Et c'est pourquoi nos rapports avec les uns et les autres sont totalement biaisés. Verset 23. Qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre cette phrase de Jésus, il faut vraiment aller au cœur de l'évangile. Si vous pensez que vous iriez au ciel, que vous allez au ciel grâce à vos bonnes œuvres, vous vivrez toujours dans l'anxiété. Demandez aux musulmans, à vos amis musulmans. Ils ne savent pas où ils iront. Ils doivent faire beaucoup de choses, mais ils ne savent pas. Mais si vous croyez en l'évangile, vous croyez que Dieu, le Père, vous aime autant qu'il aime son propre Fils, Jésus. Et donc, si vous intégrez vraiment cet aspect de l'évangile, si vous comprenez, vous saisissez le sens de ce que ça veut dire que Dieu, le Père, m'aime comme il aime Jésus, ça changera tous vos rapports avec les uns et les autres. Par exemple, si, disons, vous êtes pauvre et que vous mariez à une personne qui est riche, dès l'instant où vous êtes légalement lié, vous devenez riche. Enfin, tout ce qui est à la personne avec qui vous vous mariez qui est riche, ben c'est aussi à vous. C'est automatique, c'est légal, c'est comme ça. Et vous n'aurez pas été riche par vos mérites, parce que vous avez fait quelque chose de bien, mais vous partagez quand même cette richesse ensemble. Et la Bible nous dit que dès l'instant où on demande pardon à Dieu, le Père, pour ce que Jésus a fait pour nous à la croix, dès l'instant où on met notre foi et notre confiance en Jésus, tout ce qui est à Jésus est à nous. C'est écrit dans la Bible. Que ce soit son statut, que ce soit ses privilèges, que ce soit son héritage, que ce soit sa position, tout ça, c'est à nous. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, Jésus, quand il parle de donner la gloire, il ne parle pas de la gloire d'une divinité, d'un Dieu, mais celle de pouvoir être associé à Jésus. Et donc de recevoir toutes les bénédictions qui incombent à une personne qui est enfant de Dieu, qui est fille et fils de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu vous regarde, c'est comme si il regardait Jésus. Est-ce que vous saisissez ça ou pas? Je sais que c'est complètement fou. Moi, ça doit faire quoi? Ça doit faire 20 ans que je suis chrétien. Et c'est un combat permanent pour moi de me dire que Dieu me regarde comme il regarde Jésus. C'est tellement difficile de le concevoir. Mais c'est ça le message de l'Évangile, c'est incroyable et c'est beau. Partager ses biens, ses problèmes, la vérité, ses échecs, ça devient facile parce qu'on a une identité, une confiance, une assurance dans la personne de Jésus, qui rassemble tout autour de lui. Oui, nous sommes les membres de son corps, et même si on échoue dans notre quête à l'unité, qui est relativement faux parce qu'on est unis quoi qu'il arrive, mais même si on n'y arrive pas à le faire de manière visible, sachez que c'est Jésus qui est à la tête de ce corps. Est-ce que vous, quelqu'un écoute du rap ici? Non, personne n'écoute de la rap. Vous pouvez écouter du rap chrétien, mais moi j'écoute Youssoupha. Qui connaît Youssoupha? Personne ne connaît Youssoupha? Ah voilà, vous connaissez Youssoupha. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Youssoupha, il a écrit une chanson sur le thème de l'amour. Et dans l'un de ses... j'adore le sortir pendant mes sermons. Dans l'un de ses couplets, il dit cette phrase suivante. Il dit « À quoi ça sert de faire des maths si on ne peut pas compter les uns sur les autres ?» Et moi, j'aimerais reprendre sa phrase et formuler de la manière suivante. À quoi ça sert de se dire chrétien si on n'est pas digne de porter le nom de Jésus-Christ ? Quoi qu'il arrive, on est unis spirituellement les uns aux autres. C'est comme ça. On peut le faire d'une manière qui soit concrète, à ce que nous puissions refléter l'union en Christ, l'union entre Père et le Fils, pour que le monde vienne à Jésus. Parce qu'il est la vérité et que nous, Jésus c'est la vérité et nous, on personnifie cette vérité, si on arrive à le vivre de manière concrète, avec amour au quotidien entre nous. Priez avec moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés afin que tu m'as aimé. Dieu, merci parce que ton Fils a intercédé pour nous directement il y a 2000 ans. Et tu vois que c'est pas facile de le faire. Je te demande pardon pour les fois où chacun d'entre nous a failli dans cette mission, où on a failli à démontrer cette unité et cette union. Et donne-nous grâce, fais-nous grâce, Seigneur, que l'on puisse vraiment vivre de manière concrète cette prière que Jésus t'a faite. Et équipe-nous de ton Saint-Esprit pour savoir ce qui est le plus important, Seigneur. Voilà, tu montres que l'unité est un moyen d'évangélisation envers le monde. Et que cet outil puisse vraiment être manifesté d'une manière à ce que tu puisses recevoir la gloire et que tu puisses te révéler aux personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et édifie-nous chacun personnellement, mais aussi dans notre propre congrégation et aussi entre églises, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment être la concrétisation de cette prière que Jésus a faite. Et aide-nous, une fois de plus, à vivre, à intégrer ton évangile, de savoir qui on est en toi pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Et je te demande que tu puisses répondre à ma prière et l'exaucer avec foi. Je te demande toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Amen.